Salut, moi c'est Victor Durand Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme.
Parler d'animalisation des animaux, c'est dénaturaliser leur oppression. C'est rappeler que celle-ci est politique, organisée, qu'elle ne s'inscrit pas de toute éternité dans un ordre du monde et qu'elle peut avoir une fin. Il s'agit de voir l'humanité et l'animalité non pas comme des catégories biologiques, mais comme des catégories sociales. Sujet, objet. Personne, chose. Supérieur, inférieur. La notion d'animalisation, tout comme celle de différenciation, d'infériorisation ou d'appropriation, a donc l'avantage de mettre l'accent sur un processus, un rapport social à la fois matériel et idéologique. Matériel, parce que dans le cas des animaux d'élevage, l'animalisation passe par le contrôle physique, l'enfermement, le marquage des corps, l'appropriation, la violence et le meurtre. Idéologiquement, parce que l'animalisation tente de se justifier par des croyances et des discours, celui de l'infériorité des animalisés, par exemple.
Ça, c'était un extrait du livre « Solidarité animale » qu'Axel Pleyoust-Pror a coécrit avec Yves Bonnardel, histoire de vous donner envie de le lire. Et ça fait une piqûre de rappel sur les choses dont on a parlé dans la première partie de l'entretien. Allez écouter, si ce n'est pas encore fait. Les deux éléments super importants qu'il faut retenir de la première partie sont le passage, dans la définition du spécisme, de l'espèce comme catégorie purement biologique à l'espèce comme catégorie sociale, qui permet d'enrichir cette définition. Et second point à retenir, l'application de la grille matérialiste qui revient à analyser les structures matérielles de l'oppression. Oppression conçue comme la domination d'une classe d'individus sur une autre, avec donc des intérêts antagonistes. Et l'analyse matérialiste nous pousse à analyser les réseaux d'acteurs et les institutions de l'oppression qui produisent notamment une idéologie pour légitimer l'ordre établi et faire en sorte que rien ne change. Bon, j'ai conscience que tout ça peut paraître un peu abstrait. Mais il faut voir que tout cela renvoie à des éléments extrêmement concrets, et que l'oppression spéciste désigne en fait des réalités observables, qui s'inscrivent dans les corps, dans la chair. Et c'est là qu'on voit que le spécisme n'est pas qu'une idéologie, car c'est avant tout des pratiques violentes d'appropriation des corps. Et c'est comme ça qu'Axel Pleyoust-Pror analyse, dans son mémoire de master en sociologie, l'élevage en tant qu'institution de l'oppression spéciste.
Tout à l'heure, je parlais du complexe animalo-industriel, et en fait, c'est intéressant de regarder qui organise l'exploitation animale, à quel niveau. Donc moi, ce que je trouve intéressant au niveau de l'élevage, je me suis surtout intéressée à l'élevage, c'est tout le réseau d'acteurs qui se met en place, alors surtout pour l'élevage intensif, donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec la zootechnie, la pharmacologie, la génétique, tout ce qui est mis en place pour optimiser la production de viande, de lait, d'œufs, etc., pour optimiser les corps des animaux, pour les animaliser encore plus, pour les rendre encore plus à notre service. Et en fait, l'optimisation, c'est très concrètement, c'est l'optimisation du ratio de conversion alimentaire entre la nourriture qu'on donne aux animaux, et qu'on appelle feed en anglais, et les produits qu'on obtient à la fin, c'est-à-dire food en anglais. Et plus le ratio feed-food est optimisé, plus ça fait des économies pour l'industrie de l'élevage et plus on rentre dans un schéma intensif. Et puis, depuis 50 ans, mais surtout en fait depuis les années 2000, on a l'essor de l'aquaculture. Ça, c'est aussi un truc à ne pas négliger parce que l'immense majorité des animaux exploités à des fins de consommation alimentaire sont des animaux aquatiques. Et c'est très intéressant de voir la façon dont l'industrie aquacole se développe. Enfin, c'est une industrie qui connaît un essor phénoménal et qui cherche toujours plus à mettre en élevage de nouveaux animaux. Donc là, en ce moment, il y a tout un combat contre les élevages de poulpes qui jusqu'ici n'ont jamais été pêchés, mais n'ont jamais fait l'objet d'élevage. Et donc, voilà, s'intéresser concrètement, pas seulement à l'idéologie spéciste, mais en fait, historiquement, concrètement, politiquement, économiquement, comment s'organise le système spéciste, quelles sont ses priorités du moment, quelles sont ses faiblesses, etc. Et puis aussi voir les sources de financement du spécisme. Est-ce que c'est un soutien public à travers des subventions? Est-ce que c'est des fonds d'investissement qui financent l'exploitation animale? C'est toutes des questions à se poser pour dresser un portrait le plus fidèle possible du spécisme tel qu'il est réellement.
On voit bien avec vos exemples en quoi consiste la matérialité du système spéciste. C'est des acteurs, des institutions, des financeurs, des industries, etc. Et vous décrivez aussi certains processus qui participent à l'élevage comme appropriation des corps. Vous parlez notamment de viandisation des corps animaux. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est ?
Alors la notion d'appropriation, elle me vient directement du travail de Colette Guillaumin. En fait, Colette Guillaumin, elle a voulu décrire, comprendre les rapports hommes-femmes dans une optique matérialiste. Et en fait, elle s'est dit que les rapports hommes-femmes, c'était pas seulement l'exploitation de la force de travail, c'était pas seulement du travail non payé dans le cadre domestique, mais qu'il y avait autre chose, c'était une exploitation d'une autre nature. Et elle a parlé d'appropriation. Et en fait, elle a décrit les rapports sociaux hommes-femmes comme étant des rapports de sexage, qu'elle place dans la lignée d'esclavage et de servage, qui sont eux aussi des rapports d'appropriation physique directe des corps, qui sont pas seulement l'exploitation de la force de travail, mais qui vont plus loin. Il y a vraiment une appropriation des corps, une mainmise sur le corps, où le corps est vu pas seulement comme un objet, c'est vu comme un outil qu'on va pouvoir utiliser pour atteindre nos objectifs. Et du coup, moi, je considère que l'élevage se situe dans la continuité des rapports d'appropriation théorisés par Colette Guillaumin, donc esclavage, servage, sexage, élevage, et que dans le cadre de l'élevage, les animaux sont avant tout conçus comme des corps, et des corps qui sont là pour produire de la viande, ou des œufs, ou du lait. Et c'est en ça que, avec l'optimisation de leur corps à un niveau extrêmement profond, puisque génétiquement ils sont conçus pour grossir plus vite, pour produire plus de porcelet, pour produire plus de litres de lait par jour, etc. Il y a vraiment une construction des corps, en fait, qui est là pour servir les intérêts de la classe humaine, notamment l'intérêt au niveau de l'alimentation et des profits qu'on peut se faire à ce niveau-là.
C'est assez évident d'ailleurs même dans le vocabulaire utilisé, parce qu'on va désigner les animaux par rapport à la fonction qu'on leur attribue dans l'alimentation. Donc on va parler de poulet de chair ou de poule pondeuse ou de vache laitière.
Ouais.
Je trouve que c'est très... on voit vraiment l'inscription dans les corps.
Ouais, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la publicité. Où en fait la publicité, c'est intéressant à analyser parce que c'est un peu la concentration de l'idéologie spéciste.
Oui, alors justement, vous, dans votre mémoire, la dernière partie, vous faites une analyse de contenu en prenant le cas des publicités spécistes. Et vous avez d'ailleurs proposé un terme pour le décrire, c'est le publispécisme, c'est ça ?
Oui, publispécisme, qui est un terme qui vient directement, qui est dérivé de publisexisme.
Et du coup, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de comment vous avez analysé ces publicités, justement, et qu'est-ce que vous y avez trouvé ?
Alors, en fait, moi, je me suis intéressée très tôt à la publicité spéciste parce que, avant même de découvrir la cause animale, j'étais engagée dans des mouvements anti-pub, et notamment dans l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire. Et donc, quand j'ai découvert la question animale, assez naturellement, je me suis intéressée à la publicité pour les produits d'origine animale. Et à cette époque, donc en 2015, j'ai notamment lancé une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Je suis une pub spéciste » qui prenait des publicités pour des produits d'origine animale, pour le lait, la viande, etc. et qui essayait d'analyser la façon dont les animaux sont représentés, quel genre de discours est véhiculé, est-ce que c'est une ambiance consensuelle, est-ce que... il y a une juste représentation de l'élevage, de l'abattage. Non.
Spoiler.
En tout cas, il y a tout un matraquage publicitaire qui est considérable et qui a pour effet de diffuser l'idéologie carniste. L'idéologie carniste, c'est cette idée que la consommation de produits animaux est naturelle, normale, nécessaire. C'est Melanie Joy qui a théorisé ce terme-là. Et puis aussi que la consommation, pour ajouter un quatrième N, que c'est nice, que c'est sympa, que c'est agréable, c'est délicieux, que c'est super, etc. Et du coup, le publispécisme, il diffuse et il renforce l'idéologie carniste. Et il y a aussi une fabrique de l'ignorance autour de ce que c'est l'élevage. Par exemple, dans les publicités pour les produits d'origine animale, il va jamais y avoir de représentation des centres d'insémination. Très peu de gens savent que les centres d'insémination jouent un rôle crucial dans le circuit de production d'animaux d'élevage et de viande. Il y a très peu de représentation, voire aucune représentation de l'abattage, évidemment, alors que il n'y a pas de viande sans abattage d'animaux. Et donc, en fait, il y a une sélection de certaines étapes. En fait, c'est même pas présenté comme des étapes. En fait, dans la publicité pour les produits d'origine animale, la viande, elle est produite ex nihilo. Elle tombe du ciel, elle est là, elle est délicieuse, elle est fraîche, elle est appétante, elle est disponible pour notre consommation. Et soit les animaux sont totalement absents des représentations, donc c'est ce que Carole Adams appelle le référent absent, c'est-à-dire le référent principal de la viande qui devrait être l'animal vivant, sentient, il est totalement absent, il y a une déconnexion entre le produit et l'individu, qui fait que ça permet de pas créer de dissonance cognitive sur le fait que, ah bah oui, pour obtenir de la viande, on a dû tuer un individu. Donc soit dans la publicité, les animaux sont totalement absents, soit parfois ils sont présents, mais à ce moment-là, ils vont jouer un rôle actif dans leur propre viandisation.
Alors ça, c'est incroyable. Vous décrivez quelque chose qui s'appelle la suicide food. Et c'est vraiment très étonnant quand on commence à l'analyser, et presque perturbant. En fait, la suicide food, c'est l'animal qui est présenté comme étant consentant à sa propre consommation par les humains.
Oui, c'est extrêmement perturbant. C'est des animaux qui sont tout sourire avec un couteau où ils se découpent en tranches eux-mêmes, ils sont dans des poses aguicheuses, et en fait ils se vendent, ils sont consentants à leur consommation, c'est leur rôle, leur destinée, et ils prennent plaisir à accomplir cette destinée. Donc ça, en fait, c'est le fantasme carniste le plus abouti. C'est vraiment une mise en scène décomplexée de ce qu'on voudrait que les animaux soient, c'est-à-dire qu'ils remplissent leur rôle qu'on leur a assigné. Et ça, c'est intéressant parce que dans la suicide food, je disais qu'il y avait des représentations d'animaux aguicheurs. En fait, il y a un mix que j'ai appelé le carno-sexisme, un mix entre des représentations d'animaux sexualisés et aussi des femmes animalisées. Où en fait il y a un mélange des genres entre les femmes et les animalisés considérés comme des corps consommables, des corps qui sont là pour satisfaire le plaisir gustatif ou le plaisir sexuel. Et en fait, en tout cas, ce sont des corps disponibles, des corps qu'on peut s'approprier, qui sont là pour être saisis, dont on va se régaler. Donc évidemment, là on a le male gaze, on a le regard humain et mâle, qui produit des représentations de suicide food, des femmes, des animaux qui veulent être consommées, violées, tout ce que vous voulez. En fait, je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant entre la culture du viol et la culture carniste et la suicide food, où en fait on a ce truc-là de discours qui légitime l'appropriation des corps, et avec tout un tas d'idées sur le fait que les femmes sont d'emblée consentantes, le fait que les animaux participent d'eux-mêmes à leur propre consommation. Donc effectivement, c'est des contenus assez perturbants, et on peut en avoir des exemples sur la page Je suis une pub spéciste, mais aussi sur le site de Carole Adams, où elle a fait toute un PowerPoint, en fait, avec plein d'images comme ça.
Mais d'ailleurs, je mettrai aussi en description le lien vers votre mémoire, où on peut voir à la fin justement tous les contenus publicitaires que vous avez analysés, et que le plus souvent vous catégorisez justement selon le type de processus et de procédé qui est utilisé. Et une des choses que la suicide food efface, et en fait même occulte en l'occurrence, c'est la résistance. C'est la résistance des animaux quand on les mène à l'abattoir. Moi, je me souviens que j'avais été très marqué, à titre personnel, par une vidéo de Earthlinghead, qui est un youtubeur vegan, qui montrait une vache qui s'enfuyait et qui faisait tout pour ne pas être tuée. Et c'est vraiment une chose que la publicité et le carnisme en général font tout pour nous faire oublier. Les animaux n'ont pas envie de mourir.
Ouais, ça c'est très très important. En fait, dans la publicité, l'objectif c'est de mettre en place une ambiance où il n'y a pas de friction, où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de résistance animale. C'est consensuel. Voilà, il y a une ambiance hédoniste autour du plaisir, de la satisfaction, on passe des bons moments, la famille, prendre soin de soi et tout ça. C'est vraiment une rhétorique qui a mille lieues de la réalité des produits qui sont mis en scène. Et l'occultation à la fois des mécanismes de l'élevage, de la viandisation des animaux, mais aussi de la résistance animale, c'est quelque chose de très très intéressant. Ouais.
Un autre procédé que vous analysez, c'est une désindividualisation des animaux, qui sont pris comme une masse ou comme déjà un ingrédient. On parle du poulet, par exemple.
Oui, en fait, les animaux sont toujours déjà de la viande. Dans la publicité, c'est qu'ils n'ont pas d'existence avant leur transformation en viande, ou alors c'est juste un état transitoire, mais l'objectif, leur réelle condition, leur destinée, c'est le produit de consommation. Et c'est en ça qu'il y a une forme de désindividualisation et ouais, de déni de l'existence d'un individu qui résiste. Ça, c'est lié aussi au déni de la résistance animale. C'est que, en fait, leur seule existence valable, ou voilà, leur but, c'est d'être viande. Et je trouve ça très intéressant de faire le parallèle avec les conditions concrètes d'existence des animaux dans le cadre de l'élevage. Moi, j'ai été très marquée aussi par des vidéos d'élevage de poulets de chair, où en fait, faut savoir que les poulets de chair, ce sont des souches génétiques qui ont été optimisées pour ça, contrairement aux poules dites pondeuses, où elles ont été optimisées pour la production d'œufs. En fait, les poulets de chair, ils grossissent 4 fois plus vite qu'il y a 50 ans. Et en fait, ils atteignent leur poids dit d'abattage en à peu près un mois, en un peu plus d'un mois. Et en fait, il y a des vidéos comme ça qui montrent les élevages de poulets de chair au bout d'à peu près un mois, où en fait, les animaux ne peuvent plus marcher. Déjà, il y en a plein qui sont déjà morts, parce qu'ils ont pas, ils ont succombé à leurs conditions de survie. Et en fait, on voit des poulets de chair, c'est encore des bébés. Hein,
Oui, ils ont des corps hypertrophiés avec des têtes de poussins et ça. Des petites pattes qui s'effondrent sous le poids en fait de leur propre corps.
C'est ça, c'est les muscles qui prennent toute la place parce qu'on veut que, on a voulu d'eux que ce soit des muscles destinés à la consommation. Et en fait, l'individu, c'est presque une gêne pour l'objectif qu'on a pour eux. Et en fait, quand on regarde ces poulets-là, ils sont pas encore morts, mais ils ressemblent déjà à des poulets rôtis en fait. Ce sont des poulets rôtis pas encore morts. Mmh. C'est ce truc trop bizarre où en fait on les a tellement objectifiés
ouais.
qu'ils ont beau être encore vivants, ils ont beau résister, ils ont beau être quand même des individus malgré tout, et ben en fait ils ressemblent déjà à des objets de consommation. Ce sont déjà en puissance, ce sont toujours des biens de consommation. En fait, l'appropriation des animaux a atteint un stade, je pense. Enfin, il n'y a pas d'équivalent en termes d'appropriation et de transformation des corps et d'utilisation des corps. On atteint un truc extrême, quoi.
Ouais. Et le choix d'analyser la publicité à la suite de la reformulation théorique que vous menez de matérialisme, enfin de définition matérialisme du spécisme, est-ce que ça en découle directement? Est-ce que la publicité est une des institutions, en fait, qu'il faudrait pouvoir décrire de façon très précise, qui véhicule l'oppression spéciste?
Oui, alors je pense qu'il faut voir la publicité comme un outil au service de l'institution de l'élevage et de l'exploitation animale. Ça vaut le coup de voir les financements exorbitants qui sont mis là-dedans. Ça vaut le coup d'analyser l'évolution des discours mobilisés par la pub, parce que il y a aussi le néo-carnisme qui a été conceptualisé aussi par Mélanie Joy, qui est que face à toutes les critiques qui sont émises envers l'industrie de l'élevage, et notamment l'élevage industriel, il y a un renouvellement des discours de la part de l'élevage pour pouvoir perdurer dans le temps et se relégitimer. qui est les petits élevages, la viande bio, locale, l'élevage familial, l'absence d'antibiotiques, le plein air, etc. Donc il y a... Faut aussi, c'est intéressant de voir que la façon dont les contenus publicitaires évoluent sont parfois une réponse directe aux mobilisations de contestation de l'exploitation animale. Et concrètement aussi, il y a une régie de contrôle des contenus publicitaires qui sont parfois mobilisés par les mouvements féministes. Parce qu'évidemment, le publisexisme et la façon dont les femmes sont représentées dans la pub, c'est énormément de choses à dire. Et donc il y a des groupes féministes, des associations qui portent plainte contre certaines publicités parce que ça porte atteinte à l'image des femmes, etc. Ça véhicule la culture du viol, machin. Et qui obtiennent parfois gain de cause où des publicités sont retirées, il y a des amendes qui doivent être payées, etc. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là sur certaines publicités qui sont mensongères, qui sont trompeuses, qui sont tout ce que vous voulez à propos de ce que c'est réellement l'élevage.
C'est très intéressant parce que ce que vous dites sur le néocarnisme, ça rejoint exactement ce que vous disiez au début de l'entretien sur le fait que même quand l'idéologie est contestée, tant que les institutions et les acteurs de l'oppression restent, en fait, il y a une nouvelle production d'une nouvelle idéologie et l'idéologie peut simplement se renouveler, utiliser de nouveaux arguments qui seront tout aussi faux mais qui seront différents et qui passeront inaperçus pendant un moment jusqu'à être contestés de nouveau.
Oui.
Et c'est un cycle sans fin, en fait, tant qu'on ne s'est pas attaqué aux structures de l'oppression.
C'est ça, en fait, l'idéologie ne s'embarrasse pas de logique, de rationalité. C'est pas son rôle, c'est pas son but, c'est pas son but d'être logique.
Oui.
Son but, c'est de convaincre les esprits, c'est de verrouiller un ordre social, c'est que les gens soient équipés d'une palette d'arguments bidons pour pouvoir ne pas remettre en question leurs habitudes et l'ordre du monde. Et c'est ça qui est parfois déstabilisant, c'est que des individus qui sont par ailleurs très intelligents, très rationnels, etc., peuvent, sur certaines questions où ils ont un intérêt à ne pas changer, mobiliser des arguments complètement farfelus, complètement bidons, qui d'ailleurs sont les mêmes que plein d'autres gens dans la population, pourtant c'est des gens qui se sont pas...
Mais tous les mêmes, c'est ça qui est vraiment étonnant en fait, c'est que c'est toujours les mêmes arguments, c'est les 10 mêmes arguments qui tournent en boucle,
oui.
Et qui sont débunkés en permanence, mais qui reviennent, et c'est justement ça en fait, c'est une idéologie qui est parfois inconsciente, et dont les personnes n'ont pas conscience de revéhiculer, que les personnes n'ont pas conscience de revéhiculer à chaque fois qu'ils présentent une objection qu'ils pensent originale, mais qui est juste très banale en fait.
C'est ça. Et tous ces gens-là ne se sont pas concertés pour avoir les mêmes arguments. C'est vraiment une production sociale, idéologique, qui dépasse les raisonnements que les gens peuvent faire dans leur fort intérieur. Et c'est pour ça aussi, pour revenir à la définition du spécisme en tant que discrimination arbitraire injuste, c'est qu'on aura beau avoir des arguments logiques sur le fait que oh, le critère de l'espèce, il est arbitraire parce que si, parce que ça. C'est intéressant d'avoir les raisonnements solides, mais en vrai, ça va pas être opérant politiquement. De dire que le spécisme est injuste et que le critère de l'espèce est illogique par rapport à ce qu'il est censé justifier. Bon bah oui, c'est très important de le savoir, mais en fait, on aura beau avoir raison sur les faits, ça ne suffira pas pour lutter efficacement contre une organisation sociale totalement sédimentée, verrouillée par des intérêts, par des lobbies, par des gens qui mettent toute leur énergie et tout leur argent pour que rien ne change. Et c'est ça aussi où il faut avoir un peu de... Il faut voir large, il faut avoir une grosse ambition, il faut voir loin en fait quand on est antispéciste et il faut s'organiser à la hauteur des enjeux pour réellement avoir un impact, pour diminuer le nombre d'animaux tués, pour freiner le développement de l'aquaculture par exemple. Là actuellement on a l'industrie de l'élevage d'insectes qui se met en place. Bon bah comment on empêche ça de se développer? Bon bah il faut se renseigner sur qui sont les acteurs, comment sont-ils financés, à quel point la réglementation est en leur faveur. Comment on peut les bloquer sur certains points pour qu'ils se développent pas aussi vite qu'ils le feraient sans nous? Et à ce sujet, moi je recommande vraiment les analyses issues de l'altruisme efficace, qui est un mouvement social assez récent qui utilise la démarche scientifique et la rationalité pour informer les stratégies des mouvements sociaux et pour faire en sorte que l'allocation de nos ressources, qui sont des ressources limitées, et ben l'allocation des ressources entre différentes stratégies optimise les résultats et l'impact positif qu'on peut avoir sur le monde et augmente l'efficacité de nos luttes politiques.
Pour vous avez parlé de l'énorme ampleur de l'enjeu, et vous parlez parfois de changement civilisationnel. Et votre ouvrage s'appelle, donc, que vous avez coécrit avec Yves Bonnardel, Solidarité animale, mais a pour sous-titre Défaire la société spéciste. Donc j'aimerais peut-être finir sur cette question, qu'est-ce que ça implique concrètement de défaire la société spéciste? Vous avez donné des pistes, peut-être que vous en avez d'autres, et surtout pour créer quoi à la place si on défait la société spéciste?
Alors, défaire la société spéciste, le mot important là-dedans, c'est société. Ça fait référence à tout ce que j'ai expliqué, c'est de considérer le spécisme comme vraiment une organisation sociale, un système. Et quand on perçoit le spécisme de cette façon-là, je pense que les priorités, ce sont tout ce qui est démantèlement des institutions spécistes, élevage, pêche, expérimentation animale, corrida, etc., chasse, machin. C'est l'abolition du statut de propriété des animaux. Il y a plein de juristes en droit animal qui réfléchissent à cette question. Moi-même, je ne suis pas juriste, mais il y a, je pense, toute une réflexion sur le statut des animaux. Quel statut, quelle personnification juridique leur accorder? Et puis, défaire la société spéciste, c'est pas seulement une question d'abolition.
Ah oui, justement, vous avez écrit récemment un article pour la revue Mouvement qui s'intitule « Spécisme, abolir ne suffira pas ». Et dans lequel, justement, vous dites que l'abolition n'est pas suffisante, qu'il faut penser autre chose, et que c'est pas dans un lointain futur, c'est en fait dès maintenant.
Ouais. En fait, ce que je dis dans cet article « Abolir ne suffira pas », c'est qu'il faut pas seulement voir les animaux comme des corps souffrants, comme des individus envers qui on devrait avoir des devoirs simplement négatifs, c'est-à-dire ne pas les faire souffrir, ne pas les tuer, ne pas les enfermer, ne pas. L'idée, c'est pas seulement d'abolir leur exploitation, mais c'est vraiment de leur donner une place à part entière au sein de nos sociétés, qui sont déjà des sociétés interespèces. On cohabite déjà avec des animaux, que ce soit des animaux domestiques dans nos foyers, des animaux, même les animaux d'élevage, il y a une forme de cohabitation, même si elle prend des formes d'exploitation. Il y a les animaux liminaires, qui sont ni domestiques ni sauvages, mais qui bénéficient de la présence humaine et des infrastructures humaines qui vivent dans nos villes, donc les pigeons, les rats, les lapins, etc. Donc en fait, l'idée, c'est pas seulement de ne pas faire souffrir les animaux, c'est de les inclure sérieusement et de prendre en compte leurs intérêts, leurs préférences, leurs volontés, leurs désirs, et d'incorporer toutes ces choses-là à leur sujet dans l'organisation sociale, dans les institutions. Par exemple, réfléchir à leur épanouissement, le fait qu'ils puissent choisir leur lieu de vie, leurs activités, le droit à des soins de santé, le droit au déplacement sécurisé, sans être menacé d'être écrasé, etc. Donc c'est vraiment repenser la cité en prenant en compte le fait que il n'y a pas que des humains valides, adultes, qui vivent dans la ville ou qui se déplacent dans le monde. Il y a tout un tas d'individus aux caractéristiques différentes, et il faut aménager la société pour qu'elle soit inclusive pour le plus d'individus possible. Et il y a un ouvrage classique en éthique animale qui s'appelle Zoopolis, qui a été écrit par Will Kimlicka et Sue Donaldson en 2011 et qui a été traduit en 2016 en français, qui est une des premières tentatives de vraiment réfléchir à tous nos devoirs positifs envers les animaux et à la façon dont ils pourraient être inclus sérieusement dans les institutions et les aménagements du territoire, par exemple.
Axel Pleyus-Pror, quelles sont vos trois recommandations pour les auditorices?
Alors, déjà, moi je recommande vivement les livres de Joseph Andras, qui est un auteur qui a écrit sur différentes luttes sociales, en fait. Par exemple, la guerre d'Algérie ou la Kanaki, la lutte d'indépendance de la Kanaki. Et il y a un petit livre qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas, qui s'appelle « Ainsi nous leur faisons la guerre », qui est en fait un triptyque de trois courts récits d'histoire de résistance animale, de solidarité animale des humains envers les animalisés. Et c'est vraiment magnifique, c'est très très bien écrit, j'ai trouvé ça bouleversant et je recommande à tout le monde de cette lecture. Et je recommande aussi de Joseph Andras le livre « De nos frères blessés », donc qui parle justement d'une figure de la résistance au colonialisme français en Algérie, Fernand Yveton. Et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé bouleversant. Ensuite, je recommande la newsletter Animatopie, qui est une newsletter hebdomadaire, qui est vraiment très utile parce que de façon condensée, on a l'actualité du mouvement animaliste, que ça soit l'actualité des ONG, l'actualité des lois, l'actualité scientifique même au niveau de l'éthologie animale. Et puis chaque newsletter a un sujet, une thématique. Donc c'est toujours très intéressant, très sourcé, très utile. Et puis, en dernière recommandation, je voudrais mettre l'accent sur le fait que les mouvements antispécistes n'ont pas le monopole du questionnement autour de l'animalité, de l'animalisation, et qu'il y a d'autres mouvements sociaux, notamment les mouvements antiracistes, les mouvements des personnes issues de l'immigration, des quartiers populaires, les personnes racisées, mobilisent ces concepts-là. Et il y a des productions théoriques très intéressantes. Je renvoie par exemple au FUIQP, le Front Uni de l'Immigration et des Quartiers Populaires, qui produit des luttes et des analyses très intéressantes. Il y a le... qui a été cofondé par le sociologue Saïd Bouamama. Et puis, je renvoie aussi au collectif Justice et Vérité pour Adama, parce qu'en fait, je suis de plus en plus convaincue que les mouvements animalistes et les animalistes ont tout intérêt à s'intéresser de façon désintéressée aux autres mouvements sociaux, pas seulement dans une optique de convaincre les autres mouvements sociaux de rejoindre le mouvement antispéciste, pas seulement pour faire des parallèles entre les conditions des différents groupes marginalisés, mais vraiment parce que ce sont des groupes qui produisent des analyses incroyables sur le monde social et qui œuvrent eux aussi vraiment pour une société débarrassée des rapports de pouvoir. Donc je recommande toutes ces ressources-là.
Super, merci beaucoup, je mettrai tout ça en description, comme toujours. Et un énorme merci à Axel Pejust-Pror d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau.
Merci à toi, Victor.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Malgré tout ce qu'a dit Axel Pejust-Pror sur la publicité, s'il vous plaît, faites un maximum de pubs pour Comme un poisson dans l'eau, histoire de donner des ressources et combattre, notamment, le publispécisme. Quelqu'un m'a dit récemment que les épisodes du podcast sont comme des tracts sonores. Plus écolo et plus facile à distribuer que des tracts papier d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, à lundi prochain. Bisous.